Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Initiative solidaire et citoyenne. On va retrouver Jordan Vial, mais avec un sujet un petit peu différent, on va parler de la Kabbalah. Bonjour Jordan.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Alors la Kabbalah, plus particulièrement, qu'est-ce que c'est ?
Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de la Kabbalah et vous verrez au fil des épisodes d'aujourd'hui qui vont suivre le rapport avec la conscience en tant que créatrice de rêves et la conscience en tant que créatrice de ces fameux voyages dans le champ qu'on appelle les EMI.
Alors, allons-y.
Alors, dans l'épisode 6, j'ai laissé la porte ouverte sur la question du rêve comme formulation, langage et jeu de la conscience. Et j'approfondirai plus tard cette vision du rêve comme instrument de la conscience. Mais il est temps de nous approcher pas à pas de la Kabbalah. Q, A, surtout sans U après le Q, Q, A, B, A, L, A, H. Et nous verrons que toutes les lettres ont une importance et qu'il y a une structure racinaire qui va nous amener à voyager justement dans le champ.
Alors justement, les lettres ont une importance, pourquoi ?
Alors, je vais y arriver tout doucement. Les lettres ont une importance parce qu'elles sont des matrices énergétiques, des matrices vibratoires. Et ce n'est pas du tout comme une langue parlée courante, comme le français par exemple. En français, si je dis A, j'écris la lettre A et j'ai la sonorité du A. En hébreu, le A n'existe pas parce que c'est une voyelle. Les voyelles, ce sont des petits points et des petits signes qu'on met sous des consonnes. C'est une langue que consonantique. Et ce n'est même pas une langue. Je vais expliquer pourquoi ce n'est même pas une langue. Et la prochaine fois, j'expliquerai par exemple que si je prends cette lettre qui va être la première de l'alphabet, qui s'appelle Aleph, je fais un tout petit son, Aleph. C'est une lettre qui naît d'un silence. C'est-à-dire que si je veux prononcer cette lettre, elle n'a aucun son. Et c'est le son primordial duquel tout va découler. Si je veux que la lettre soit prononçable, c'est-à-dire comment passer de l'insaisissable au saisissable, et là on rentre dans ce qu'est le langage de la conscience. Mais ça, c'est prévu pour un peu plus tard.
Alors, je te laisse continuer.
Voilà. Alors, donc, nous en étions à épeler les lettres de Kabbalah, et nous allons la laisser nous parler d'elle, de l'accueillir. Nous allons essayer de l'accueillir dans notre conscience humaine dont elle est créatrice. Au cœur d'elle-même, au cœur de la Kabbalah, le secret du code source. Au-delà du code source, le mystère d'une indicible transcendance qu'aucune représentation ne peut définir. C'est pour ça que tout part de ce silence. Puis, ce point zéro, qui n'est plus le silence, ce point zéro entre transcendance et immanence. Mais par quel mystérieux processus, par quelle alchimie secrète, passe-t-on de la transcendance à l'immanence ? Comment l'insaisissable offre une émanation, un écho de lui-même, qui va se formuler en un champ de conscience, un champ d'information, à l'origine de toute apparition et de toutes les formes du vivant ? La Kabbalah offre à qui a soif de cette vérité les secrets de ce processus, les secrets de cette dynamique décrivant les jeux structurels de la conscience en sa propre matrice et dont les articulations, et là le mot articulation, il faut l'entendre à tous les sens du mot, les articulations se font simultanément création, formulation et action. Je dis bien simultanément. Pour la Kabbalah, pour le réel, le temps n'existe pas. Ou s'il existe, c'est dans les reflets miroirs de ces multiples formes de conscience, dans d'éphémères instants subjectifs d'une perception et de son encore plus éphémère interprétation depuis une source d'information.
Mais Jordan, c'est ce que nous montre aujourd'hui la physique quantique.
Exactement. Or, la Kabbalah, les premières traces qui nous restent aujourd'hui remontent à plus de 6000 ans.
C'est-à-dire que c'était déjà des précurseurs.
Voilà. Ce n'est pas que c'était des précurseurs, c'est qu'ils décrivaient déjà le processus de la structuration du réel vers la réalité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de redécouvrir tout ça sous l'œil de la science. Et bientôt, science et conscience vont pouvoir à nouveau s'épouser. C'est ça qui est intéressant. Donc, on sait qu'en la conscience supralumineuse, tout est comme empilé dans une simultanéité et qu'il faut qu'elle se projette dans des dimensions fréquentielles différentes jusqu'à la fréquence du sous-lumineux pour se percevoir dans sa propre multiplicité. Le code Kabbalah rejoue indéfiniment le mystère de cette révélation de l'un en toute chose et de toute chose en l'un. Je vais vous lire un petit texte de Carlos Suarez sur sa vision de la Kabbalah. Mais avant, quelques mots sur cet homme qui habite une place de choix dans mon rêve et que je chéris profondément. Il est né en 1892 à Alexandrie, en Égypte, et est décédé en 1976 à Paris. Peintre, philosophe, écrivain, il était le traducteur et ami de Krishnamurti. Et il a développé une approche de la Kabbalah vivante. Pas celle toute desséchée par les savoirs des bibliothèques, mais une Kabbalah libre des institutions religieuses. Il y révèle les lettres hébraïques comme des structures vibratoires, des matrices énergétiques, des équations vivantes. En poursuivant ses travaux, j'y vois comme lui, derrière chaque mot et chaque racine en ces mots, des configurations d'information, d'énergie, de souffle, de choc de force instillés par les lettres. Ce ne sont pas des objets graphiques sortis d'un mental humain, mais bel et bien des êtres et des principes, des longueurs fréquentielles spécifiques, portant chacune des qualités vibratoires de ce grand souffle du feu primordial. Elles jaillissent perpétuellement de ce feu, elles sont ses étincelles et se combinent pour répondre aux intentions de la suprême conscience. Voici donc quelques extraits des écrits de Carlos Suarez. Carlo, hein, pas Carlos, Carlo. La tradition multimillénaire qui veut aujourd'hui se faire entendre est la Kabbalah. Elle a voulu jusqu'ici demeurer cachée, secrète, occulte. Elle s'est déguisée, s'est faite extravagante, touffue, impénétrable, inconnaissable, sauf à ses rares initiés. Elle s'est prêtée à des divertissements cérébraux, à des cogitations mathématiques, à mille élucubrations de faux érudits. Et là, Suarez va parler maintenant des lettres hébraïques et de leur spectrogramme, et j'en parlerai aussi à la prochaine émission. Chaque idéogramme a un sens, mais il se compose lui-même d'autres idéogrammes, ayant tous leur sens et qui sont reliés entre eux. Chaque idéogramme exprime un nombre, lequel à son tour a un nom. Donc tu vois, on part vraiment dans une toile, dans une trame de spectrogramme à partir d'une seule lettre qui se combine, qui ne peut être entendue qu'en se combinant avec d'autres lettres. Et là, on part dans un spectrogramme sonore, vibratoire, énergétique, d'une puissance extraordinaire, qui déstructure le mental. C'est ça qui est intéressant, ça déstructure le mental. Suarez dit plus loin. Ce langage est au service d'un mode de pensée qui s'appuie précisément sur le postulat universel que nous avons perdu. Nous l'avons perdu car notre civilisation s'est orientée en fonction d'un mode de pensée empirique d'origine sensorielle. Nos mots excluent tout ce qu'ils ne désignent pas expressément et ne se prêtent qu'à une pensée comparative, traitant du mesurable sur un mode linéaire tributaire du temps. Cette pensée, indispensable instrument d'organisation matérielle, provoque dans la psyché, en ce qui concerne le sacré, une dichotomie, c'est-à-dire une division, une opposition, une sorte de manichéisme basé sur cette dualité du bien et du mal, qui n'ose pas dire son nom, une dualité insoluble. Alors, je m'arrête un instant pour parler du terme « lettres hébraïques ». Ces mots portent à confusion. Le peuple hébreu gardienne le code, l'une des dernières traces de la mémoire des origines. Il faut savoir, alors, ils gardiennent le code, mais comme ils l'ont enfermé dans une langue, comme ils l'ont enfermé dans une religion, à mon avis, très peu d'initiés savent qu'ils gardiennent le code. Hein ? Donc, il faut savoir que le code des lettres a été transmis à l'humanité entière, j'en parle dans mon site, puis il a été gardienné par différentes tribus humaines. C'est pour ça que la Kabbalah a pu prendre d'autres formes, comme le sanskrit, entre autres. La Kabbalah est passée par les hiéroglyphes, par une écriture proto-sinaïtique, avant de prendre forme dans les écoles de Moïse, puis de sortir d'Égypte, pour arriver environ il y a 2500 ans, à l'époque d'Esdras, à une forme écrite carrée qui a été et qui est actuellement la plus aboutie. Donc je reviens à Suarez. Il dit « La graphie biblique propose à cette pensée une gymnastique susceptible de la désarticuler, et c'est ça qui nous intéresse. En cours d'entraînement, la psyché atteinte dans le tréfonds de sa structure peut accepter de mourir et de ressusciter à un rythme suffisamment rapide pour permettre à la révélation de l'atteindre. Le postulat originel est l'existence d'une énergie une. Celle-ci, en son essence, échappe à la pensée. Elle est exprimée par l'idéogramme Aleph, dont j'ai commencé à parler tout à l'heure. Cette énergie non structurée, intemporelle, toujours neuve, créatrice, vivante, vie de l'univers, n'est pas perceptible car tout ce que nous percevons est appréhendé par notre structure sensorielle, psychique, mentale. Tout existant a deux vies, celle de sa structure, yod, on reviendra sur cette lettre, qui évolue au gré de sa fonction, et celle du germe intérieur, aleph, qui évolue au gré de l'intelligence qu'il développe. Et lorsque ces deux vies se rencontrent, se connaissent et s'épousent, yod et vavé, vivant, est en nous, c'est le fameux tétragramme. À certains moments importants de la double histoire humaine, concrète et psychique, le mythe hébraïque a ceci de particulier, qu'il devient apparent et retombe sur terre en agissant à la façon d'un cyclone qui soulève en trombe une masse d'eau et l'anime d'un rapide mouvement tourbillonnant. On va retrouver les travaux de Stéphane
Doué. Oui, les travaux de Stéphane Doué, avec le spin
voilà.
Originel.
Voilà, et donc, on en parle depuis 6000 ans. L'eau soulevée participe du cyclone plus encore que de l'océan. La Kabbalah sait fort bien que Yod et Vavé n'est pas une divinité, mais une immanence contenue virtuellement en nous, que nous pouvons faire mourir ou naître. Elle peut naître lorsque les deux vies dont sont faites toutes les vies, contenant et contenues, se fécondent en nous mutuellement. Affirmer que Dieu a créé le monde au moyen de ses lettres est une absurdité dans son sens littéral. Exprimer ce fait autrement, dire que chacun de ces idéogrammes exprime un des aspects de l'énergie cosmique et que le texte biblique dans ses pseudo-récits décrit le jeu de ces énergies dans l'univers et dans l'homme, dégager l'esprit des imaginations mystiques, et voilà que la lecture du texte ainsi explicité peut même, en désarticulant le continuum de notre pensée temporelle, contribuer à projeter ces énergies en nous. La Kabbalah doit s'offrir libre à des esprits libres. Ces paroles sont extraites de la Bible restituée aux éditions Sophon. S-O-P-H-O-N. Donc voici une approche de la Kabbalah, dénudée d'une tradition religieuse, ésotérique ou réservée à de pseudo-initiés. Elle se présente débarrassée des dogmes, offerte telle une science du langage de la conscience. Elle se transmet de manière orale depuis des millénaires. Cependant, on peut la suivre et la voir ainsi apparaître pour mieux se cacher dans des textes décrivant des personnages dont l'histoire se confond à des aspects symboliques et mythiques. Les plus connus sont associés à des textes où ils apparaissent sous des noms comme Noé, Abraham, Moïse, David, chacun représentant un grand cycle d'évolution de la conscience humaine. En fait, ces personnages mythiques, historico-mythiques, correspondent à des strates et des longueurs fréquentielles de la conscience humaine lorsqu'elle se développe. Puis, parlons aussi du rabbi Yeshua, nommé Jésus, qui montre comment le processus Kabbalah s'aboutit dans la transmutation du corps. Cet enseignement aujourd'hui est noyé dans le récit religieux. On n'a pas compris qu'en fait c'était un enseignement de Kabbalah un peu codé, hein, qu'il nous donne. Nous pourrons voir plus tard le parallèle de cet enseignement avec la supramentalisation décrite dans l'œuvre de Sri Aurobindo, qui formule la Kabbalah à partir du sanskrit. Je vous rappelle qu'il a fait le même travail de décodage du code source à partir des écrits aussi multimillénaires, puisque les écrits des Rishi Veda, ils ont plus de 5000 ans aussi. La présence en filigrane de la Kabbalah dans les narrations et les textes initiatiques montre les processus de la conscience suprême se mirant et se laissant interpréter par des psychés humaines miroirs, où la supraconscience se révèle à elle-même, exigeant toujours des déconditionnements, car elle ne peut vivre dans aucune prison, fussent-elles dorées par les savoirs et les croyances, avec toutes leurs formes d'idoles, ou encore dans les pires prisons, celles dont les barreaux sont redorés à leur fin par des égos spirituels aveuglés par leurs illusions. Ces personnages, porteurs de clés cachées dans les textes initiatiques, sont en nous. Ils correspondent à des strates fréquentielles de notre propre conscience miroir qui ne demandent qu'à s'illuminer, sous l'impulsion vibratoire de la Kabbalah. Et plus nous sommes libres, plus nous voyons la voix, V-O-I-X, voir la vibration, voir tout ce que déclenche l'insaisissable se rendant saisissable.
Oui, parce que au niveau de la voix est une déformation de l'espace.
Exactement.
Une déformation de la conscience.
Voilà. Alors il est dit que le kabbaliste, c'est celui qui voit la voix. Voilà. Et plus nous voyons la voix, et plus nous devenons les témoins habités par l'ineffable présence de l'être. Mais attention, la Kabbalah des lettres, qui est la partie la plus accessible de la Kabbalah du code source, n'est pas une langue. Elle s'est prêtée dans le monde de surface à être la langue d'un État et d'un peuple, mais on voit qu'elle y apparaît comme endormie dans une linéarité mentale amnésique. Tu te rends compte qu'ils lisent le journal avec les lettres hébraïques. Elle n'est pas une langue faite pour une communication entre humains. Elle ne peut s'enfermer dans aucune structure mentale. Elle ne peut ni décrire, ni raconter, ni désigner, ni s'enfermer dans un sens. Elle est un code initiatique. La Kabbalah est d'abord un émetteur qui a besoin d'un récepteur. Et par la projection vibratoire de ces étincelles, les lettres êtres, c'est parce que ce sont des êtres, elles plongent dans notre miroir liquidien pour l'éclairer, le faire vibrer, s'immirer et ouvrir le vortex interfacial du cœur pour nous inviter dans le rêve du champ de conscience. Pour accueillir sa puissance vibratoire, il faut, comme l'a précisé Suarez, qu'elle puisse rencontrer un esprit libre, capable de supporter une déstructuration de sa psyché, pour recevoir dans cet espace des flux de conscience capables de toutes les transmutations alchimiques. La Kabbalah est une force supraconscience, elle ne force rien. Mais si elle bouscule, c'est que la maturité de réception est là. Elle le fait alors avec l'amour d'une mère. Et si elle déstructure, c'est avec la rigueur de vérité d'un père. Elle se nomme, elle se donne, proportionnellement à la capacité d'ouverture du focal de réception, et ne se déverse comme un torrent que lorsque le corps substantiel peut le supporter, ou comme dans une EMI, dans un corps éteint pour qu'il n'explose pas le temps d'une visite dans l'œil du cyclone.
Eh bien, dis donc, on retrouve, c'est vrai qu'on retrouve tous les travaux de la physique quantique et aussi ceux de Michel Gabriel Mouret.
Exactement.
Au niveau quand Michel Gabriel Mouret nous disait que la Bible est un dictionnaire de symboles.
Oui. Alors là, le symbole est une des lectures. Alors on dirait qu'il y a quatre grands sens de lecture, mais ces grands sens au nombre de quatre se resubdivisent en 70 ou 72 niveaux de lecture. Donc il y a de quoi faire.
On a de quoi faire. Merci beaucoup, Jordan,
et à la semaine prochaine. Merci à tous.